On est de retour, il n'y a pas de générique. On m'a interdit de mettre un générique. Donc on va parler de nouveautés de cette rentrée. Blackie a décidé de se lancer toute seule dans un réquisitoire pour, à propos d'Arrow. On ne sait pas si ça va être pour ou ça va être contre, mais Arrow, la série qu'elle a tellement défendue comme elle avait défendu le pilote de Glee à l'époque, rappelez-vous.
Et le pilote, c'est la comédie musicale sur Marilyn Monroe.
Ouais, mais ça, tout le monde l'a fait. Voilà. Il est super, le pilote de Smash.
Pas du tout.
Moi aussi. Et je suis sûr,
Le pilote était nullissime. Et c'était assez évident que la série allait être pourrie après. Autre débat.
En gros, si j'aime bien un pilote, attendez-vous à une série pourrie.
Mais non. Non. Alors.
J'avais beaucoup aimé Arrow. Pas que c'était parfait, mais. C'était pas Smallville non plus. Ah. J'étais plus ou moins. Oui, effectivement.
Donc, à chaque fois que tu regardes un pilote et tu dis non. Ah, ouais, tiens, c'est pas Smallville.
Non,
si
c'est
je regardais
ça.
Toute la série en entier.
Pas pendant 9 saisons. C'est juste que c'était sur la CW. C'était.
Un grand gage de qualité. Puisque.
Puisqu'il y avait pas d'ailleurs des risques dessus. Non, mais c'est... techniquement, c'est la relève de Smallville. Smallville s'est arrêté. Ils avaient besoin d'une nouvelle série avec un super-héros. Il y avait de grandes chances que ce soit de la même qualité que Smallville. Donc effectivement, le fait que l'approche soit un petit peu plus sérieuse m'a agréablement surprise. Mais c'est vrai que j'aimais plus ou moins bien le cast. Il y avait du potentiel, dans ce pilote, parce que c'est vrai qu'il y avait des flashbacks plus ou moins intéressants. On voyait bien que la série allait être construite sur le super-héros à l'heure actuelle et en même temps comment il a fait pour devenir l'homme qu'il est. Donc il y avait vraiment du potentiel, ça pouvait partir dans n'importe quelle direction. Malheureusement, tous les défauts du pilote n'ont fait que s'empirer.
T'as vu tous les épisodes qui ont été diffusés jusqu'à présent ?
Oui. Je trouve que sur les, je dirais, deux, trois derniers épisodes, je commence à me dire que ça pourrait être pas si mal, parce que d'une, on a arrêté un peu le vilain de la semaine. L'un des gros travers de la série, c'est que en début d'épisode, Oliver Queen prend un mec sur sa liste des gros vilains, ça va être le méchant de la semaine, et à la fin, il va buter tout le monde, sauf le vilain de la semaine, qui va mettre en prison en tapant trois trucs sur son ordinateur, qui l'incrimine, et puis voilà, c'est vraiment simpliste.
Ce que tu décris ressemble quand même beaucoup au début de la saison 1 de Revenge. Emily, elle avait sa liste, et puis oui, à chaque épisode, elle disait « Toi, je vais te punir », et à la fin, la mère était punie.
Honnêtement,
un épisode de Revenge était mieux foutu qu'Arrow, parce que c'est vraiment... ça saute des étapes comme c'est pas possible, hein. Vraiment... Et il y a toujours des phrases clichés qu'il répète à chaque fois... You failed my city.
Et alors,
des choses comme ça, c'est vraiment.
Et la mère dans tout ça, est-ce que c'est elle qui a ordonné la mort de son mari sur le bateau ?
Ça s'est pas encore développé. Ce qu'il y a, c'est que sur les derniers épisodes, on a eu tout un épisode concentré sur Oliver Queen, le fait qu'il se fasse arrêter. J'ai trouvé ça assez osé d'en faire un suspect de la police tout de suite.
Dans quel cadre ?
Dans le cadre où il suspecte que c'est lui le vigilante de la ville. J'ai trouvé ça assez osé. Bon, évidemment, ça s'est réglé en un épisode très facilement.
Ensuite,
mais au moins, il n'y a pas eu de vilain de la
semaine. Il débarque et du coup, on le voit en même temps que le héros, comme dans Superman.
Plus ou moins, il se prend un sidekick. Son garde du corps, déjà d'une, il le met dans la confidence. Donc, il n'est pas tout seul à faire ses voix off pour nous expliquer des choses. Il y a quelqu'un à qui parler. Et en plus, il a quelqu'un qui n'hésite pas à lui dire « Là, tu te prends un peu trop au sérieux. Tu te prends pour un super-héros, mais en gros, mis à part viser les gars de ta liste, sauver la personne dans la rue qui se fait agresser, c'est ça aussi être un héros. » Donc, je voyais des points positifs commencer à être développés. Malheureusement, c'est toujours mal écrit. Des dialogues vraiment très, très mauvais. Des personnages... Enfin, c'est il y a aucune structure dans les épisodes. Ce sont que des ellipses. On saute d'une étape à l'autre. Il y a pas d'enquête. Jamais. Il y a un vilain de la semaine, mais il y a jamais vraiment d'enquête. Il tape sur son ordinateur. Il trouve ce qu'il veut. on a pas sentiment d'histoire complète par épisode.
Mais alors, comment t'expliques le succès pas critique, parce que on n'entend plus beaucoup parler de AO, mais au départ, pendant le premier mois, enfin, c'était la meilleure nouveauté de la rentrée avec Nashville.
Oui, parce qu'il y avait un très bon potentiel, parce que les flashbacks, par exemple, étaient très intéressants. Malheureusement, ça, juste maintenant, quand on met des flashbacks, c'est plus du tout du même niveau, mais c'est vrai que c'était pas mal de voir. On a vu différents Oliver Queen, moi je trouvais ça très intéressant.
Et ça t'inquiète pas
pour, on a un héros charismatique, enfin un acteur vraiment bien.
Pour Shield à la rentrée prochaine.
Quel est le rapport? Là, tu me compares à CW et Joss Whedon, attention.
Ah, ça va être, ça va être ABC, non?
Oui, ça va être ABC, mais ça va être Joss Whedon.
Joss Whedon va vraiment avoir le temps de s'impliquer dans cette série, ou il va le faire à la J.J. Abrams?
Pour l'instant, il le fait. Il ne sera jamais J.J. Abrams. Je lui fais confiance.
C'est-à-dire quelqu'un qui va faire des bonnes séries pendant longtemps?
Non, pas quelqu'un qui va lâcher sa série.
Bah, Shield, il va pas avoir le temps de s'en occuper. Il va être sur Avengers 2 pour faire
temps,
un super film.
S'il y a quelqu'un qui sait faire trois boulots en même temps, c'est lui. Hein. Je rappelle qu'à un moment, il avait Angel, Buffy et Firefly en même temps.
Il écrivait un épisode. Il a écrit un épisode sur Angel et un épisode sur Buffy.
Joss Whedon va superviser Shield, mais comme d'habitude, il va s'entourer de scénaristes qui seront très bons, qui pourront prendre les règnes. Joss, pendant qu'il faisait Avengers, il s'occupait d'autres choses aussi, il faisait les comics, qui supervise toujours, qui sont écrits par d'autres personnes, mais qui supervise toujours, donc...
Il y aura l'actrice de How I Met Your Mother dans Shield ou pas, finalement?
Bah, apparemment non, pour l'instant. Hein.
Elle devrait être dégoûtée.
Mais le tournage commence en janvier, donc...
Du pilote ou...
Du pilote.
How I Met Your Mother.
Bah, le problème, c'est que ta mère la série, ça continue.
Ouais, ça marche toujours du tonnerre sur...
Ça veut toujours pas s'arrêter, ce truc.
Oh, et Partners qui a été annulé alors que c'était la meilleure sitcom avec des enregistrés depuis des décennies. Depuis des années.
Des décennies.
Des décennies, bah bien
sûr. N'exagérons rien.
C'était mieux que Frasier et que Friends. Donc, Arrow, en gros... Ça a été une hallucination collective.
C'est pas bien, en fait.
Pour l'instant, c'est décevant. Après, je continue à regarder et si un jour ça s'améliore, je vous tiendrai au courant.
Mais c'est-à-dire, tu penses que la review de Iris, il faut qu'on la supprime du site? Ou elle nous explique à quel point Arrow est exceptionnel?
Non, elle n'a pas dit que c'était exceptionnel. Elle était beaucoup plus...
Sauf
elle était beaucoup plus modérée que moi sur Pilote, quand même.
Ah bon?
J'étais plus enthousiaste qu'elle.
Bon, bah, on va garder Iris. Ouais. En tout cas, c'est...
Regarde la petite.
Bah pour enchaîner, pour faire une transition, on va parler d'une autre hallucination collective qui est Nashville, qui en gros a été la série qui a été la mieux reçue à la rentrée, à peu près partout, particulièrement les critiques officielles à la Alan Sepinwall des séries américaines aux États-Unis, et puis un peu partout... Sur la blogosphère qui s'occupe des séries télé, Nashville, c'était censé être la super nouvelle série que tu aimes beaucoup, en fait.
Alors là, je vais être claire et nette. Toutes les critiques que tu peux dire sur Nashville, je suis d'accord. Je serai d'accord sur tous les points. Malheureusement, je ne sais pas, je suis aveugle quelque part, je sais que c'est mauvais. Et je ne sais pas, j'ai une espèce de béguin à cause de quelques chansons et quelques acteurs que je trouve sympathiques, alors que je sais très bien que c'est mauvais et je continue à regarder. Donc,
Mais alors ça, effectivement, j'entends complètement. Moi aussi, il y a des séries, je sais très bien que c'est pas bon, mais avec lesquelles je suis indulgent, etc. Mais sur Nashville, c'était quand même assez bizarre le fait qu'il y ait.
Oui, je trouve ça bizarre aussi. C'était sympathique, mais c'était pas...
Je sais pas si c'est l'effet Connie Britton qui a fonctionné.
Je pense que si Nashville et Arrow étaient aussi encensés, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre.
Effectivement, cette rentrée, question nouveauté, c'est inquiétant. Ah non, il y a Vegas sur CBS.
Ouais,
Qui avait un pilote.
Que toi,
t'inquiète pas. T'inquiète pas, dans 2 jours, il va y avoir un nouvel article sur Vegas qui commence vachement bien. Je veux pas parler de The Good Wife comme référence, mais dans le mélange affaire de la semaine réussie et toile de fond feuilletonnante réussie, ça fonctionne vraiment 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 bien. Mais ça marche pas du tout non plus, et à mon avis on n'aura qu'une seule saison. Ça vaut le coup quand même de regarder, puisqu'à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus solide, de nouveau, qui est diffusé depuis la rentrée. Quoique, à partir du mois de janvier, il va y avoir 1 milliard de nouvelles séries qui vont reprendre. J'ai regardé le programme, j'étais un peu inquiet. Mais effectivement, Nashville, c'est pas bon du tout.
Oui.
Profitons de cet intermède
musical
pour dans la morosité ambiante de ce qui est diffusé de nouveau aux États-Unis. On a trouvé un refuge, c'est-à-dire les séries qui ne sont pas diffusées en ce moment.
Et qui sont vachement bien, pour le coup.
Et qui sont vachement bien.
Et qu'on a bizarrement snobé au moment où ça a commencé, parce qu'effectivement, sur le papier, ça avait l'air un peu nul et que sans doute les pilotes n'étaient pas forcément tout à fait au niveau de nos attentes. Mais qu'on rattrape, et d'ailleurs, que je rattrape en ce moment. Blackie reçoit beaucoup d'appels en cette fin de podcast. Notamment de 2 séries, de 3 séries même, que j'ai rattrapées sur tes conseils.
Non.
Voilà, je te rends l'honneur.
Non.
Par laquelle on commence, on va peut-être commencer par Spartacus,
puisque Blackie ne regarde pas
le téléphone. Donc Spartacus, effectivement, c'est un pilote assez nullissime, où il y a des combats dans une arène en image de synthèse. Une ou deux scènes
de Barbelossa. Il y a l'arène dans le pilote,
ou quoi ? Il se bat dans l'arène à la fin, et du coup, il tue genre 10 personnes à la suite en hurlant. Effectivement, c'est nul. Enfin, le pilote.
Ça vaudrait le coup de revoir le pilote, parce que je pense que Spartacus, c'est comme Louis et comme New Girl, une série qu'on apprend à regarder et dont on apprend les codes au fur et à mesure. Et comme ces codes sont des codes inhabituels, c'est-à-dire pour Spartacus. Des gros effets spéciaux un peu pourris, une image aux couleurs saturées et qui tourne toutes vers le ocre, le jaune. En gros, c'est or et gris, quoi. C'est or et argent, et avec des taches de rouge quand il y a plein de sang partout. Effectivement, au premier abord, d'un point de vue visuel, c'est assez traumatisant. D'un point de vue du langage, c'est assez traumatisant aussi, puisqu'il s'amuse à mélanger de l'anglais, des expressions latines. Et des grossièretés à faire rougir Fertis. Et donc, je crois, je n'ai jamais revu le pilote, mais je pense que, comme New Girl, ça doit passer correctement.
Je pense que quand on connaît la série, on l'apprécie plus. Cela dit, pour moi, le problème de Spartacus, finalement, la série est intéressante. Le personnage principal, je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, mais ce n'est pas vraiment lui qui fait l'intérêt de la série. Et d'ailleurs, dans la saison 2, bon, malheureusement, l'acteur principal est décédé entre la saison 1 et la saison 2. Il a été recasté. Et visiblement, l'acteur qu'ils ont trouvé, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas tout à fait au niveau ou juste qu'ils ont du coup réfléchi un peu à mettre d'autres personnages plus en avant. Mais dans la saison 2, le personnage de Spartacus est finalement presque un personnage secondaire. Et on le voit, en tout cas, ça devient vraiment une série où il n'a pas un rôle plus important que les autres personnages. Et pour moi, la richesse de Spartacus, c'est vraiment l'ensemble et les autres personnages qui finalement n'apparaissent pas dans le pilote, puisque le pilote est vraiment centré sur ce qui se passe avant que Spartacus, donc on connaît l'histoire, devienne un esclave à Rome et un gladiateur.
Moi, je trouve que ça sent... Enfin, thématiquement, c'est quasi une évolution normale. Effectivement, le pilote se centre sur Spartacus parce que c'est... C'est lui qui va être au cœur de l'histoire, entre guillemets, de Spartacus. Mais Spartacus, c'est l'histoire d'un leader. Donc, il va devoir mener des troupes, mener des troupes avec une cause sur des principes. Donc, il va devoir les rallier à sa cause. Et bah voilà, je trouve ça assez chouette que les scénaristes aient réussi à développer tout un tas de personnages et que Spartacus, dans la deuxième saison, se retrouve confronté à toutes ces opinions différentes pour pouvoir les mener dans la même direction. Et d'une série vraiment pop-corn, enfin moi, mon intérêt principal dans la première saison, c'était vraiment regarder les combats de gladiateurs. Pas parce que c'est des gladiateurs et en fonction de mon orientation sexuelle, mais parce que vraiment, les combats étaient vraiment chouettes, ouais. C'était vraiment du divertissement pop-corn, la baston, c'était drôle, c'était bien fichu. Et en fin de première saison, il y a un côté épique qui prend pas. Mais en deuxième saison, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites en filigrane sur ce que c'est être libre, est-ce que la liberté à tout prix, c'est ce qui compte vraiment. Il y a un discours sur la liberté, la différence entre la liberté, l'égalité, il y a plein de choses qui sont dites, et à côté de tout ça, il y a des épisodes d'un épisme.
Épisme, oui, on va l'autoriser.
De toute façon, c'est...
Mais je suis tout à fait je suis d'accord avec toi, en fait, tu m'avais donné envie de regarder la série, parce que je disais qu'effectivement, au niveau du langage, au niveau de la manière de filmer, au niveau même de la façon de filmer en fait l'érotisme, parce que ça reste une série qui est assez érotique, Spartacus, mais qui l'assume finalement. Enfin, c'est-à-dire que dans chaque épisode, on a une orgie des personnages à poil, mais finalement, ça contribue aussi au plaisir qu'on a à regarder la série, mais c'est jamais. C'est quelque chose d'assumé, c'est jamais quelque chose de montré de manière honteuse. Et en même temps, la série montre aussi régulièrement des scènes qui sont très limites en fait sexuellement, puisqu'il y a régulièrement des scènes soit de viol, des scènes où on ne sait pas trop si c'est un abus ou non, mais en général ça penche un peu vers l'abus, mais bizarrement d'une manière qui n'est pas spécialement érotique, au contraire,
et par ces scènes là effectivement tu sens bien que y a un vrai rapport de classe, c'est-à-dire, et tu sens la différence entre esclave et maître, ouais. Et ce que ça veut dire qu'être esclave, et qu'effectivement esclave, c'est pas juste faire un travail sans être payé, c'est que ton corps ne t'appartient pas, et t'es à la disposition de ceux qui ont le pouvoir, et le premier endroit où ça se joue, c'est la sexualité, ouais. Et c'est quelque chose que n'évite pas Spartacus. Ouais.
Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est qu'au départ, moi, je pensais avoir à faire à une série un peu pop-corn qui allait montrer effectivement des combats de gladiateurs de manière un peu complaisante, c'est-à-dire que effectivement la série nous dit c'est pas mal, c'est pas bien l'esclavage, et en même temps quand on voit les combats de gladiateurs, on est au fond bien content de voir deux personnes s'entretuer avec des effets spéciaux un peu gore, etc.
Et ça se coupe la tête, et ça s'écrase les épées sur le nez,
ça casse les mâchoires, c'est la série la plus gore que j'ai jamais vue. Il y a des scènes dans la saison 2 qui sont immondes, je vais m'évanouir tellement c'est atroce, ou de coupage de langue ou autre. Et en parallèle, la série, moi j'ai vraiment commencé à aimer au bout de, 4 ou 5 épisodes où la série, d'un coup on se rend compte qu'il y a une dimension assez sombre que je pense les scénaristes gardaient un petit peu en réserve, où effectivement la série, c'est un peu idiot de dire ça, mais rappelle. Après tout ce côté, l'esclavage, au final, c'est pas si grave parce que les gladiateurs se battent, ils s'entendent bien entre eux, c'est cool. La série devient assez perverse et effectivement montre toute l'horreur que ça peut représenter. Et elle se censure jamais, en fait. Donc effectivement, les personnages féminins qui sont esclaves sont souvent soumis à des abus que je pense dans une autre série on n'aurait pas vu ou qui aurait été juste évoqué, et là effectivement une femme esclave se fait violer par ses maîtres régulièrement, se fait abuser, et je trouve que c'est assez bien traité, que la série en assumant son côté plus sombre a vraiment gagné en profondeur et en intensité, et à côté de ça c'est aussi une série qui bizarrement, comme on a vraiment qui peut être assez épique, parce que effectivement après 11 ou 12 épisodes à voir l'oppression des esclaves et à les voir traités de la manière la plus horrible possible, on a l'épisode un peu récompense où ils se rebellent et on a des massacres absolument jouissifs où ils se révoltent contre leur maître, et la moitié des personnages disparaissent en un épisode, mais c'est vraiment chouette.
Et t'as pas fini la saison 2 ?
Non, il me reste 2 épisodes. Ne me gâche pas la fin.
Non, mais t'as quand même vu Il y a des épisodes assez incroyables d'un point de vue juste de scène d'action, juste de souffle épique.
Moi, j'ai vu l'épisode où il brûle la reine des gladiateurs, qui est génial.
C'est assez ahurissant. T'as vu l'épisode aussi où il libère la fille dans les mines. Clairement, tout le monde s'est extasié sur Blackwater, qui est l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Game of Thrones, parce que je sais pas, il y a un bateau qui brûle et il y a quatre gars qui se battent avec devant une porte sur une plage. Et en disant, Dieu, c'était incroyable, toutes ces scènes. Spartacus, c'est Blackwater à chaque épisode, avec tous les trois épisodes, un épisode qui est dix fois plus fort.
C'est ça. Et effectivement, et c'est vraiment la série pour moi, enfin c'est épique, c'est-à-dire qu'on regarde, il se passe des trucs incroyables, on s'attend pas à voir dans une série finalement, on s'attend à ce que ça se passe hors caméra, ou à ce que, ou juste que ça se passe pas, enfin que le conflit s'arrête un peu plus tôt, et avant la grosse baston, ou avant la mort des personnages, et finalement ils le font, et en plus la série, enfin... En fait, c'est une des rares séries qui, pour moi, réussit à se réinventer un petit peu au bout d'une saison, parce que finalement, la fin de la saison 1, bah, la moitié des personnages disparaissent, le postulat de la série qui était vraiment en saison 1, ce sont des esclaves qui font des combats dans des arènes à chaque épisode, est complètement
caduque. À la fin de la première saison, après ce dernier épisode qui était jouissif au possible, c'est là, bon, bah voilà, fin, ils ont grillé toutes leurs cartouches, la saison 2, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, maintenant qu'ils sont libres, parce que bon, bah voilà, on va vous spoiler un peu, mais en même temps, vous connaissez un peu l'histoire de Spartacus. Hein, Spartacus n'a pas resté quand même dans l'arène pendant des milliers d'années. On se disait, bah ça va être super, quoi, il va être tout seul avec ses trois amis et il va se balader dans la campagne sans qu'il n'y ait plus de baston dans les arènes. Et moi, c'est ça que j'aimais dans la saison 1 et la saison 2. Est tout aussi fort, voire supérieur. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que la saison 3 va être la dernière, alors que ça marche plutôt vraiment bien pour la chaîne qui diffuse la série, mais effectivement, ça aurait pu s'étirer sur 3-4 saisons, la fuite et la poursuite entre les généraux romains qui allaient essayer d'attraper Spartacus qui allait les éclater, et voilà, ah, il est trop fort, ça pouvait... Et là, on sait que, bah, en gros, la dernière saison, ça va être la saison de la chute.
Oui, et c'est. Mais en plus, ils vont vite. Effectivement, on sent pas qu'ils se retiennent ou qu'ils se gardent des intrigues pour plus tard, et c'est assez plaisant. J'ai pas encore fini la saison 2, il me reste 2 épisodes, mais j'imagine que ça va se finir sur une grosse victoire pour Spartacus, puisque la saison 3 va, a priori, moins bien se finir. Mais moi j'apprécie aussi qu'ils osent tuer leurs personnages et finalement même des personnages intéressants ou sympathiques, ils les éliminent pour le bienfait de l'histoire, ce qui finalement est assez rare parce qu'il y a beaucoup de séries qui soi-disant
tuent leurs personnages. Et ils les tuent pas pour tuer, pour faire un acte
gratuit, voilà,
pour
faire choc.
Une surprise, pour un choc, parce qu'il faut bien faire quelque chose et que bon, maintenant c'est la mode de tuer un personnage principal quand on n'a plus rien à dire. Même si ça handicape la série après, parce que il lui manque un élément. Dans Spartacus,
en général,
ça fonctionne.
Ça relance. Et surtout, je trouve, enfin, c'était moins vrai dans la saison 1, mais la saison 2, moi, je trouve que les personnages féminins sont très, très, enfin, sont très forts. Effectivement, ça me fait regarder d'autres séries historiques, comme notamment Game of Thrones, qui est pas vraiment une série historique, mais qui sous prétexte effectivement d'être une série qui se passe au Moyen Âge. Montre des personnages féminins qui parfois sont un peu plan-plan ou très ancrés dans leur rôle. Et là, les personnages féminins de Spartacus sont très forts et très... c'est assez sympa de voir la compagne de Spartacus, effectivement, qui se bat à ses côtés en permanence, qui est pas du tout, qui a pas du tout besoin d'être protégée par lui et qui presque est qui est presque autant la chef des esclaves que lui. Et... Enfin, je trouve que la série est assez est jamais cliché sur ce plan-là, ce qui est assez sympa. Voilà. Et surtout, c'est très gore. Et ça, j'aime bien.
Et on va dire à peu près la même chose de la nouvelle série favorite de Blackie, qui s'est engagée à écrire un texte où elle va présenter les 5 meilleurs épisodes de la série. en attendant qu'elle soit diffusée, que sa troisième saison soit diffusée dans quelques mois. Tu veux donc parler de la saison 3 de Game of Thrones, c'est ça? Où est-ce qu'on va savoir si l'hiver va enfin un jour arriver?
Non, non, parlons de, du nouveau chef-d'œuvre que personne ne regarde, du nouveau The Wire.
Pour info, le créateur de Spartacus, c'est Steven
S. D. Knight qui avait beaucoup bossé
sur Buffy. Oui.
Voilà, on reconnaît sa touche parce qu'il a écouté. Il a écrit les épisodes les plus sinistres de Buffy.
Qui a été formé à l'école Joss Whedon.
Ah, tu dis plus Josh, mais t'as du mal avec Whedon.
Et donc, on va rester dans l'esprit Buffy, puisque, bah voilà, enfin, disons-le clairement.
Oui, c'est un peu...
C'est le nouveau Buffy.
C'est le nouveau Buffy, non, mais c'est...
On va vous parler de Teen Wolf.
Oui, voilà, Teen Wolf, au cas où c'était pas assez clair. C'est vrai que la plupart des nouvelles séries fantastiques, que ce soit Supernatural ou Vampire Diaries, on a tendance à dire « Oh, passé la première saison, c'était pas très bon. Vampire Diaries, c'était pas très bon. Quoi? Les premiers épisodes. »
Oui, oui, non, oui c'est vrai. Vrai. Oui, non, c'est vrai que c'est Vampire vrai. Diaries, la première moitié de la première saison,
Teen Wolf, j'ai été convaincue par toi et Fertis. Et c'est vrai que là, dès le pilote, vous saurez tout de suite si vous aimez ou pas. Effectivement, la série, je trouve qu'elle est meilleure en saison 2, mais...
Donnez-lui 5 épisodes.
Non, sincèrement, enfin, moi...
Mais le pilote est franchement
bien. Le pilote est bon, et je... Pas seulement parce que je ne m'attendais pas à ça, malgré le fait que vous en ayez dit du bien, je... J'avais vraiment du mal en voyant que ce soit les photos promo ou en même voyant des bandes-annonces, j'avais vraiment du mal à croire que ça pouvait être bien.
Bah, le pilote est correct, mais je trouve que la série, elle trouve quand même ses marques au bout de, à la mi-saison, où il commence à sentir ce qui fonctionne ou non, les relations qui fonctionnent ou non. Mais c'est vrai que
c'est
pas un pilote où on se dit c'est pourri et ensuite ils ont complètement réinventé la série. Ça reflète effectivement ce que sera la série, en tenant compte du fait qu'elle s'améliore pas mal.
Voilà. C'est pas ridicule visuellement dans le pilote. Les dialogues... n'ont rien de honteux, je trouve même les personnages assez intelligents. Si je compare à quelque chose de la CW, excuse-moi, mais, c'est quand même une série qui s'appelle Teen Wolf sur MTV, je m'attends pas non plus à des merveilles, parce que je connais pas non plus l'auteur, il a rien fait avant.
Ouais, je crois que...
C'est difficile de savoir à quoi s'attendre, hein, franchement.
C'est vrai que la série, a priori...
On l'a snobé clairement, enfin, on l'a pas regardé quand ça a été diffusé.
C'est tout pourri des années 80 sur MTV avec des acteurs, enfin, ça semblait pas. Mais effectivement, moi ça me fait un peu penser à Buffy justement parce qu'il y a le côté un peu ridicule du début où, parce que la série se prend malgré tout suffisamment au sérieux pour oser un peu développer ses personnages et ses intrigues et parce que les scénaristes mise tout sur les personnages parce que finalement les intrigues elles sont pas mal dans Teen Wolf, mais ce qui fait qu'on regarde, c'est que les personnages sont suffisamment bien développés et suffisamment attachants pour qu'on ait un peu envie de voir ce qui leur arrive. Ça fonctionne plutôt très bien et la série est, en plus a une ambiance que j'aime bien, je trouve que la série est régulièrement angoissante.
Elle fonctionne bien en tant que série pas d'horreur, mais
série
d'horreur avec des en tant que série fantastique avec de vraies scènes et même des épisodes entiers angoissants. Ouais. L'épisode, je crois que c'est en saison 1 où ils sont coincés dans le gymnase.
Dans le lycée,
ça dure l'épisode entier.
Deux épisodes.
Là pendant 40 minutes, on sait pas ce qui va se passer et on se dit non. Dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, ils jouent le jeu à fond de l'angoisse et ça marche. Il y a un vrai travail sur l'action, sur les scènes d'action, sur le développement de la surprise, les introductions des épisodes. C'est là où j'ai commencé à me dire, j'ai commencé à regarder Teen Wolf dans le métro, sur mon téléphone, en tant que série pour passer le temps, parce que c'est comme ça. Et à chaque fois, au bout de 3-4 épisodes ou 5, je me suis dit, mais c'est fou. Les 6-7 premières minutes étaient scotchées en me disant, mais c'est incroyable. Normalement, il devrait y avoir, au bout de 2 minutes, la scène devrait s'arrêter et on devrait avoir 48 heures avant. Et là, pas du tout, ça continue. Ou ah bah tiens, là ça devrait être un rêve. Et en fait, bah non, c'est pas un rêve, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a un jeu, il y a une connivence avec le spectateur, il y a... Les scénaristes ne prennent pas les spectateurs pour des imbéciles, et ce qui est étrange, c'est que c'est une série qui est effectivement diffusée sur MTV, donc qui est à destination d'un public qui n'est pas censé, ou peut-être que c'est nous qui nous disons que voilà, les gamins de 15 ans n'ont pas une culture cinématographique ou de séries télé relativement étendue, mais en fait, ça joue avec tout un tas de clichés, et ça ne prend pas le téléspectateur pour un abruti fini qui va avaler les moindres clichés qu'on va lui donner. Enfin, c'est vraiment très très chouette, c'est très futé d'un point de vue de l'écriture.
Et c'est vrai que la série est régulièrement surprenante, notamment en saison 2, il y a toute une, on va pas dire comment c'est résolu, mais tout un suspense sur l'identité du monstre de la saison, qui finalement, moi, parce que c'était résolu à un moment où je m'y attendais pas, et parce qu'ils osaient aller vers quelque chose qui m'a plutôt surpris, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont... Je sais pas, qu'ils ont regardé, ils ont vu effectivement Buffy ou toutes les séries du genre qui ont été inspirées par Buffy. Ils ont un peu digéré ça et ils s'en inspirent tout en sachant ce qu'attendent les gens aujourd'hui et en s'arrangeant pour surprendre un petit peu, soit par la manière dont ils développent leur histoire, soit parce qu'ils développent plus vite qu'on s'y attend.
L'un de leurs avantages, jusqu'à maintenant, puisque ça va changer en saison 3, c'est qu'ils n'avaient que 12 épisodes. Et plutôt que nous faire un monstre de la semaine, parce que c'est ce que vous êtes Buffy aussi, ils ont vraiment, vraiment adopté le sens du feuilleton. On a beau avoir des épisodes bien construits, ça va peut-être être l'épisode où ils sont coincés dans le lycée, l'épisode où il y a un nouveau monstre, peu importe. Tout ça, c'est lié, tout ça, ça forme un feuilleton cohérent et c'est impossible de suggérer à quelqu'un « Regarde le sixième épisode et fais-toi une opinion. » C'est un vrai feuilleton qu'on suit, ce qui fait que quand il y a des moments de suspense qu'ils essaient de nous faire peur, ça marche encore mieux parce que c'est bâti sur tout ce qui s'est passé avant, sur ce qu'on sait des personnages, de la personne qui les attaque, on connaît déjà les lieux, enfin, ils jouent vraiment là-dessus, ils s'en servent et je pense que c'est pour ça que leurs saisons sont si bien construites et marchent aussi bien.
Alors, moi je suis pas fanatique, j'entends tout ce que tu dis et je suis d'accord avec toi qu'effectivement les saisons sont construites sur une trame feuilletonnante qui doit être connue du début à la fin. C'est pas ce qui est le plus intéressant dans la série, mais c'est ça qui tient la série aussi, c'est qu'effectivement sans rien révéler, les derniers épisodes des deux saisons sont pas les plus réussis, mais ça conclut honnêtement tout ce qui s'est passé depuis le début. Et il y a pas une surenchère de rebondissements incroyables qui sur le coup serait surprenant. Et puis avec 3 secondes de recul, on se dirait mais c'est juste n'importe quoi.
Ah oui, ils sont embourbés dans leur révélation.
C'est très chouette la façon dont ils ont construit les saisons sur une intrigue vraiment maîtrisée du début à la fin, avec un développement des personnages. Ce qui est chouette aussi, c'est... c'est complètement naïf, mais je suis juste content de retrouver les personnages, de voir Style qui fait n'importe quoi, de voir ses interactions un peu bizarres, de voir...
Mais c'est vrai que, moi, Timo, ça me fait énormément penser à Z aussi, mais avec des loups-garous. Et pour moi, c'est vraiment, on regarde comme on regarderait Z aussi. C'est-à-dire, on voit les personnages à voir, ils vont au lycée, ils ont des petites histoires. Alors, il y a Ryan, il y a Marissa, il y a... comment s'appeler
Summer.
Summer.
Summer,
c'est Lydia, c'est celle qui est censée être... Bon, soi-disant, elle est méga intelligente parce qu'on nous le dit toutes les deux minutes.
Bah ouais, mais
clairement, c'est le même âge que Summer. Oui, mais parce que les scénaristes ont décidé qu'elle était méga intelligente.
Tu veux dire que Marissa, c'est la fille qui a l'arc et...
Et Ryan, c'est le loup-garou. Le mec du début, là, celui qui sortait avec Marissa, c'est le...
Et
le style, c'est évidemment...
C'est ça.
Et c'est vraiment... Je pense que c'est une dynamique assez classique de série qu'ils ont
repris. Oui, c'est quand même assumé.
Mais effectivement, ça fonctionne. Même si on enlève les histoires surnaturelles, les personnages en eux-mêmes fonctionnent assez bien, bon, avec des personnages un peu plus intéressants que les autres, mais on est content de les retrouver. Et à côté de ça, ils rajoutent effectivement les intrigues fantastiques qui permettent d'ajouter un peu de punch et qui rendent l'ensemble beaucoup plus intéressant.
Ce qui est chouette aussi, c'est l'utilisation des parents. Parce que c'est un teen soap. Enfin, c'est aussi, ben voilà, comme tu disais, c'est aussi... Et les parents, là, sont vraiment bien utilisés. Donc, soit c'est les affreux méchants, ou alors la mère du héros, qui est quand même confrontée à ce qu'est son fils hyper rapidement. Elle ne va pas attendre 17 saisons pour se rendre compte que... Ah oui, effectivement, à chaque pleine lune, mon fils était un peu bizarre.
Ah, le mieux, c'est quand même style, c'est son père. Parce que quand même, mais... avoir le père qui est shérif de la ville, c'est une facilité. Un vampire Diaries a cette facilité qui ne lui sert à rien d'ailleurs, c'est le shérif le plus stupide du monde. Là, la relation de Stiles et son père, Stiles, c'est un peu le... C'était le comique de service au début. Mm-hmm. Et on se rend vite compte que finalement, il est pas bête, c'est lui qui... Il fait les réflexions qu'il faut, il a un regard assez externe sur tout ce qui se passe, en plus d'avoir de l'humour. Il a une relation avec son père absolument... Enfin, j'ai presque envie de dire que c'est presque du Friday Night Lights, tant ça me touche.
Ça fonctionne vraiment.
Et c'est vraiment, il y a quelque chose de réaliste dans leur rapport.
À un moment donné, je ne sais plus, il y a une histoire de trahison, le père se sent trahi par son fils, non ? Je ne sais plus, rappelez-moi.
Il se fait licencier à cause de son fils.
Et il lui dit, et il ne veut pas lui dire, et puis s'il lui dit quand même, il lui dit que ce n'est pas de sa faute. Et, c'est hyper touchant. Ouais.
Moi, j'avais beaucoup aimé quand Stiles fait boire son père pour essayer d'avoir des informations. Donc, c'est un peu le fils qui se sert de son père. Et ensuite, il voit que ça se retourne un peu contre lui parce que son père commence à déprimer, à parler de la mère qui est morte. Et il commence à s'en vouloir d'avoir abusé comme ça de cette relation. Et, c'est le genre de choses à laquelle je ne m'attends pas dans Teen Wolf. Et de temps en temps, on a ce style de rappel. Ouais.
Mais ils le font assez souvent parce que finalement, tous les personnages qu'on voit au début, en tout cas tous les personnages secondaires, sont effectivement, ils correspondent à des clichés qu'on attend dans un teen show. Et finalement, c'est vrai que la bombasse de la série dont est amoureux le geek, finalement, elle se révèle... Enfin, on comprend que c'est finalement la fille la plus intelligente de sa classe et que c'est pas juste une bombasse un peu superficielle.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle finit pas avec lui, hein, qu'elle en a rien à foutre du geek machin qui est amoureux d'elle. Elle, ce qu'elle veut, c'était l'autre mec... Ça, c'est vachement chouette. Autant dans The OC, ça m'avait gonflé, là, Summer, qui d'un seul coup change de personnalité, devient une fille hyper futée et se rend compte que c'est l'homme le plus merveilleux de la Terre. Là, la fille, elle s'en fout, quoi, gentil geek qui n'est pas un geek, en fait, Stiles.
Non, c'est juste pas un type populaire, c'est pas le plus beau de la classe.
Oui, puis il fait des blagues tout le temps.
Il n'a pas trop confiance en lui, il est nerveux, et voilà.
Non, mais franchement, effectivement, s'il y a une série, c'est 20... Non, mais non, c'est 24 épisodes.
Et c'est vrai qu'il n'y a aucune fioriture là-dedans. J'ai jamais l'impression d'avoir une intrigue secondaire. Parce que même lorsqu'on s'occupe de Lydia en saison 2, qu'elle pète un câble, qu'elle a ses hallucinations...
Elles sont affreuses, ces hallucinations.
Mais
elles
ça a complètement un lien
peur.
Avec l'intrigue principale.
Et même... Alors, moi, à un moment donné, j'étais pas... Enfin, je me disais, moi, effectivement, elle est un peu tout seule dans son intrigue où elle fait des hallucinations, machin. Sauf que c'est fait d'une telle façon que ces moments-là sont flippants. Et donc, bon, tant pis. Peut-être c'est pas relié, peut-être... Mais en tout cas, les scènes étaient splendides. Et puis, au final, en fait, c'est relié. Mais les scènes sont splendides, sont flippantes. Ben, voilà.
C'est vrai que la série fait vraiment... Enfin, moi, dans la première saison, il y a une scène dans un vidéoclub où il y a un loup-garou qui attaque un des héros. Et ça m'a fait peur. J'avais l'impression d'être devant un film d'horreur assez potable, ce que j'attends pas vraiment dans une série, parce qu'en général, les séries, quand elles essayent de faire peur, elles peuvent éventuellement faire sursauter, mais elles n'arrivent pas à vraiment créer une ambiance. Et pourtant, c'est d'autant plus un exploit que les effets spéciaux dans Teen Wolf, en tout cas dans la saison 1, sont vraiment pourris. Et que dès qu'on aperçoit effectivement les loups-garous maquillés ou en image de synthèse, on n'y croit plus du tout. Enfin, la série contourne ça et arrive assez bien à...
Elle contourne avec l'imagerie gentiment homo-érotique ou en gros, qu'est-ce que c'est un loup-garou dans Teen Wolf ? C'est juste un type qui a des favoris et qui est torse nu. En gros, c'est ça. Il a trois poils sur les joues.
Et il fait des bonds de gymnase.
Voilà. On va faire une mini pause. Enfin, moi, on va conclure
on
en
va
fait.
Conclure, bah, on va conclure, pas besoin de parler de Yelvin.
Bref, Teen Wolf, c'est très bon, regardez.
Ah, c'est super. Ouais. Si vous aimez Buffy, vous aimerez Teen Wolf. Voilà. Mais regardez Spartacus avant, c'est encore mieux.
Et voilà, on a de la compagnie, on va vous dire au revoir.
Ça va ? C'est toujours pas fini ?
Non.
Ça va ? Et toi ?
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
Salut.
Ah, on va pas faire une autre génie dans les...
Ça fait bien non, parce que c'est toujours pas fini.
Non, mais en fait, on n'a pas. On aurait dû parler. On parlera de The World la prochaine fois.
J'avais plein de choses à dire sur.
Mais regardez vraiment The World. Hein?
Ça enregistre encore.
Bah oui.
Ah bon?
Bah, oui, là, on est en bonus track.
En bonus. The World, c'est super. C'est une série de lesbiennes qui est bien, ce qui est étonnant.
C'est super. Ça rend vachement crédit tout ce que ça dit sur ce New Normal. Mais c'est vrai que c'est bizarre que ce soit vachement bien. Non, mais non, c'est pas vraiment vachement
bien. C'est des lesbiennes qui couchent toutes les unes avec les autres. Et en fait, c'est un soap qui a l'essence de tout ce qui vient dans la soap. C'est-à-dire qu'il n'y a que des personnages féminins. Les personnages masculins ont tous été évacués. Et en gros, elles se battent. Elles se font de sales coups pendant toute la série. C'est super.
Voilà. Regardez Teen Wolf. À bientôt.
À bientôt.